I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast. Je suis avec mon ami Arnaud Bordas. Salut Arnaud.
Salut Stéphane.
Et nous allons parler de Cross de Philippe Sebon, parce que on l'avait teasé dans le précédent épisode sur Parole de flic. Alors attention, hein, on va pas faire aussi bien, je pense. Hein. T'as pas envie de rigoler, je te vois déjà, là, t'es tout sinistre, tu vois.
Ouais, ça va pas, c'est la déprime.
C'est la déprime, quoi, un peu comme Sardou dans le film.
Voilà.
Donc exactement. Cross, il faut qu'on présente ce que c'est, parce que je pense que c'est quand même un truc qui est un peu tombé dans les limbes du cinéma français depuis un bon bout de temps maintenant. C'est un film de 1987, signé Philippe Sebon, qui est l'un des scénaristes de Parole de flic.
Tout à fait.
Voilà, et qui est le polar, le film de flic en fait de Michel Sardou, quoi.
Voilà, c'était effectivement bon. Il a pas fait grand chose au cinéma, hein, Michel Sardou. Il y a un ou deux trucs avant, un truc après, je crois, Promotion Canapé là.
Ah putain, il était dans Promotion Canapé.
Ouais, c'était un des acteurs principaux, toi.
Didier Kaminka.
Voilà, tout à fait. Et ça a été, je crois, sa dernière incursion au cinéma. Après, il a fait quelques téléfilms, mais voilà, ouais, c'est un... Enfin, il faut dire les choses comme elles sont, c'est un très mauvais acteur.
Michel Sardou.
Voilà. Ouais. Après, donc le concept du film, en tout cas sur l'affiche, voilà, c'était de réunir à l'affiche Michel Sardou et Roland Giraud, qui était quand même Roland Giraud, un comédien qui avait un petit peu de renommée à l'époque, hein, qui avait fait des gros succès comme Papy fait de la résistance, où il était très drôle d'ailleurs, des choses comme ça.
Ah, mais il est très drôle là aussi.
Hein. Oui, oui, mais c'était peut-être pas forcément voulu. Ouais, quoi. Ouais. Ouais. Et donc de les réunir autour de ce concept là qui est écrit sur l'affiche, hein, c'est très simple, hein, à pitcher, quoi, c'est quand un flic engage un tueur. Voilà.
Et là, tu crois que tu vas t'en sortir avec ça, avec ce pitch-là, Arnaud ?
Tu veux que j'en fasse un petit peu plus ?
Moi, je veux un vrai pitch.
Bon, alors, eh ben, en gros, c'est Sardou qui joue un flic qui s'appelle... que tout le monde surnomme Cross. Il insiste lui-même auprès des gens.
Pour... Il s'appelle Cross, mais attends, faut pas spoiler tout de suite, parce que ça prend du temps avant de savoir, tu vois, comment il s'appelle vraiment, en fait, tu veux. Parce que c'était la grande mode de l'époque, en fait, d'avoir des surnoms raccourcis, tu vois. Et c'est vrai que nous...
C'est un truc de polar. Hein.
Non, ouais, mais en revoyant le film... Tu sais, on s'est posé la question, parce que nous, on l'avait vu à l'époque, et on l'avait vu quand on était plus jeune. Hein. Moi, en tout cas, je sais, quand j'étais gamin, j'ai dû le voir sur la 5 ou un truc comme ça, tu vois. Et en plus, moi, je tripais, quoi. J'avais envie de le voir, tu vois, à cette époque-là, quoi. Et en fait, le film, je l'avais complètement oublié. Et là, du coup, on l'a redécouvert ensemble. On s'est dit, on va le revoir ensemble pour faire cet épisode, quoi.
Et on s'est bien marré,
mais surtout, on a attendu... On est pour savoir comment on se demandait. On se disait Cross, mais c'est quoi son vrai nom, Crosstouille? Enfin, voilà, on cherchait. Donc, faut pas le dire tout de suite. Moi, même si c'est un peu déceptif. Hein. Moi, j'utilise le terme déceptif. Je le dis, même si c'est pas français, c'est déceptif. Voilà.
Bon, alors on le dit pas tout de suite. Alors.
On le dit pas tout de suite.
Bon, alors Cross, c'est donc c'est un flic. Comment dire, plus ou moins raté, quoi. C'est un homme sans qualité. En fait, c'est un personnage qui n'existe quasiment pas, quoi, qui subit tout le film, quoi. C'est aberrant.
Sauf à la fin.
Voilà. Oui, dans le dernier mouvement, quoi. Et donc, ce flic, en fait, un soir, il y a un gars qu'il a connu, qu'il a arrêté par le passé, qui s'appelle Simon. Et qui, pour se venger, kidnappe sa famille, alors son ex-femme, qui est jouée par Marianne Chazelle.
Marianne Chazelle, Roland Giraud, c'est une comédie, le film.
Ouais, Marianne Chazelle, que Philippe Sebon, on va reparler de la mise en scène parce que c'est important dans le film. C'est un film de réalisateur, vraiment. Mais il essaie de l'iconiser un petit peu en femme fatale avec des robes invraisemblables, en la mettant dans la pénombre et en projetant en mettant la lumière sur ses yeux, tu vois, des choses comme ça. Mais bon, c'est ni Rita Hayworth ni Jenny Tierney hein, quand même Marianne Chazelle, donc bon, on a un peu du mal à gober le truc quoi. Bref, donc sa famille se fait capturer avec sa fille aussi, la petite fille, c'est important ça, hein, et par ce type qui s'est en fait qui utilise comme homme de main trois ou quatre fous à échapper de l'asile quoi, et qui les séquestre dans une baraque. Alors la crosse, il se dit bon ben comment je vais faire, et comme il se trouve qu'il est en train de pister un tueur à gages avec un collègue flic, là, ils sont sur un coup, ils pistent ce mec qui vient d'arriver en France et qui est vraisemblablement sur un contrat. Il va voir, et le mec, le tueur à gage, c'est Roland Giraud, il va le voir, et il lui dit...
Totale crédibilité, déjà.
Voilà, il va le voir, il lui dit, il faut que tu m'aides à sauver ma famille. Et Roland Giraud...
Il accepte.
Il accepte.
Je sais pas pourquoi. Mais il fait, ok, j'ai envie de me marrer un peu.
Voilà, et donc, ils vont à l'endroit, là, et puis le reste du l'endroit où est séquestrée la famille, là... dans un hôtel désaffecté, là, et puis c'est quasiment toute la deuxième moitié du film qui se passe
c'est
là.
Même, ouais, c'est même les deux tiers.
Ouais. Ouais, c'est même les deux où tiers ils essaient film. D'infiltrer, enfin, infiltrer, le mot est un peu exagéré, quoi, d'infiltrer l'endroit pour récupérer la famille. Et voilà, et donc on peut dire ça à peu près pour le pitch, quoi. C'est encore une fois, c'est quelque chose d'assez linéaire et d'assez
assez basique, oui,
mais voire même invraisemblable, hein, comme on vient de le
ouais,
dire.
Ouais, mais c'est surtout en fait que c'est assez étrange. Alors bon, c'est un film de scénariste. Je pense qu'on peut le dire. Est-ce que Sedbon à la base, voilà, c'est, il vient de là.
Ben, Sedbon, c'est quelqu'un qui a pas une carrière bien brillante, hein, qui a beaucoup écrit. Il a fait beaucoup de télé notamment, et notamment pour Alain Delon, hein, toutes ses séries, la Fabio Montal, des choses comme ça. Ou au cinéma, on a dit Parole de flic. Il a beaucoup bossé pour Alain Delon. Il a réalisé quelques films, celui-ci qui était son premier, Mr. Frost juste après avec Jeff Goldblum, qui était un film fantastique. Voilà, c'est quelqu'un, c'est un auteur de polar aussi.
C'est un vrai connaisseur.
C'est un vrai connaisseur du polar. C'est quelqu'un, c'est un vrai cinéphile. Il avait écrit dans les, je crois que c'était dans les années 70 ou début des années 80, un très bon bouquin sur Charles Bronson. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui aime un peu tout le cinéma qu'on aime,
oui,
et qui
est
assez respectable là-dessus. Après, sur le bilan de sa carrière au cinéma, on peut pas vraiment dire qu'il est grand-chose de mémorable, quoi.
C'est... Non, après, le truc, c'est que il y a aussi cette logique que, même si les figures de proue à l'époque, ça pouvait être Delon ou Belmondo, dans le cinéma d'action français, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de polars à cette époque-là ailleurs. Et d'ailleurs, en fait, le truc, c'est qu'on dit, bon, c'est étrange de se dire qu'il y a Michel Sardou dans un polar français, tu vois, des années 80, mais il se trouve que pour ceux qui ne savent pas ça, qui ne savent pas forcément ce côté obscur du cinéma français, on va dire, si tu veux. T'as j'en avais fait un épisode chez le ciné, Le Faucon, avec Francis Huster, qui est aussi un polar, film
assez,
d'action.
Assez,
voilà.
C'est croquignol aussi.
Il y a L'Arbalète, Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, quand même, non. Donc, Hugo Leng. Tu vois, donc, voilà. Et donc, il y a tout un tas de films comme ça qui existent et qui sont aujourd'hui... Je ne sais pas s'ils étaient très frais à l'époque, mais aujourd'hui, ils sont carrément pris un coup dans l'aile, quoi. Et Cross en fait partie, hein, il faut être honnête. Hein,
Ouais, bon, alors après, à l'époque, c'était un bide, hein, aussi. Hein, c'est vrai que
on se demande pourquoi.
C'était une époque prolifique en termes de polar. Il faut signaler un scénario, quand même, d'un film vraiment intéressant de cette époque-là, de Philippe Sebdon, qui est un des films préférés de notre ami Alexandre Bustillo, d'ailleurs. C'est Mort un dimanche de pluie, qui est vraiment, pour le coup, un film avec une ambiance. Et, moi, je l'avais revu il y a une dizaine d'années, bah, d'ailleurs, sous la pression d'Alex, quoi. Et c'est vraiment un film étonnant, quoi. Et à revoir et à redécouvrir.
Contre toute attente, c'est pas de ça qu'on parle, on parle de Gross.
Voilà. Bah,
quel
est
l'autre film préféré d'Alexandre Bustillo, je suis sûr.
Mais... non, je pense pas.
Mais
quand
il
même.
Le dit pas.
Mais oui, Cross, voilà, non, il y a quand même, c'est un film à redécouvrir, hein, parce que il y a...
Ouais, mais alors c'est difficile à redécouvrir, parce qu'en fait, nous, on se l'est tapé sur YouTube.
Voilà
parce qu'en fait, il y a des fans de Michel Sardou qui l'ont mis sur YouTube, donc, parce que je pense qu'il n'y a plus que les fans de Michel Sardou qui se rappellent que ce film existe. Eux, et peut-être le chat qui fume, on leur fait un petit coucou, là, s'ils veulent le sortir en 4K.
Voilà.
Mais voilà, c'est aujourd'hui, c'est quasiment invisible, ça passe plus à la télé. Même pas sur RTL 9, hein, je pense. Donc, en fait, le seul moyen de le revoir, à moins d'avoir une VHS d'époque, parce que je crois pas même que ce soit sorti en DVD.
Tu crois pas
c'est YouTube et dans une piètre qualité. Donc, en fait, qui sommes-nous pour juger la qualité du film sur
Bah, c'est vrai qu'en plus c'est un film d'esthète aussi quand même. Hein. Ouais. Bon, je dis ça un peu avec l'œil qui frise quoi, tu vois, évidemment quoi, vu le film que c'est, mais il faut quand même je pense que le film il s'est fait descendre à l'époque pour ces raisons-là aussi. Alors ça n'en est pas moins un film raté, mais il faut quand même reconnaître à cette bombe même s'il s'est planté, mais qu'il a essayé de faire quelque chose, quoi. C'est-à-dire, il a essayé de faire un film qui esthétiquement sorte des canons ternes et plats, quoi, du cinéma et même de pas mal de polars français de cette époque-là. C'est-à-dire, il a essayé de faire quelque chose visuellement. Bon, le problème, c'est qu'à l'arrivée, nous, on a beaucoup pensé à Russell Mulcahy en voyant le film, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de scènes éclairées comme ça de nuit, des scènes de parking éclairées par des néons.
C'est-à-dire qu'il sort peut-être des canons des films policiers de l'époque français, mais il sort pas des canons des clips de Jeanne Masse, quoi, parce que ça ressemblerait un peu à ça, à du Desireless ou je sais pas quoi.
Ça fait film de réalisateur de clips.
Mais de clips français.
Ouais, mais aussi parce que voilà, c'est-à-dire il y a toute une esthétique. On sent que le gars est influencé par le polar américain, tu vois, qu'il essaie de faire des trucs, qu'il essaie de choisir des angles de caméra pas forcément courants encore une fois dans le cinéma français. Et puis t'as ces scènes. Enfin, à un moment, au début, quand Sardou piste Roland Giraud, donc il le suit. Alors déjà
dans un Fight Club. Alors ça c'est déjà la scène.
Ah mais ça c'est magnifique. Ouais. Parce que alors déjà juste avant, on nous présente le personnage de Roland Giraud qui parle chinois. Thaïlandais, je ne sais pas.
Non, chinois, je crois.
Ouais, avec un personnage là, dans une bagnole, c'est parce que c'est vraiment la voix de Roland Giraud, quoi, donc c'est assez ridicule. Et puis après, il se rend dans ce Fight Club clandestin avec une arène circulaire avec des gens réunis sur des balcons autour et en bas dans l'arène. Roland Giraud, torse poil, qui a bien fait de la muscu, j'ai l'impression, quoi, et puis qui se retrouve face à un gros black, là, pareil, surdimensionné, là. Et alors, c'est assez marrant aussi, parce qu'en fait.
Apparemment, il le savate. Mais on ouais, en fait, il le savate, le voir,
mais en
quoi.
Fait, quand les coups commencent, la lumière s'éteint. Ça dure 3 secondes, et puis la lumière se rallume, et le black est par terre. et Roland Giraud est au-dessus de lui, en contre-plongée, là, tout pectoral, saillant.
C'est
là,
du Frank Drebin, quoi. C'est le truc. La scène, elle est complètement dingue parce que tu te dis, mais en fait, vous avez pas tourné la scène, vous vous êtes pas fait chier, quoi, tu vois. Parce qu'il a peut-être fait de la muscu, mais apparemment, bon, voilà, il a pas placé les kicks, quoi.
Il doit avoir du mal à lever la jambe. Bien que, alors, toi, tu me disais, c'est les films français de cette époque-là, il y a toujours une scène de karaté. C'est vrai qu'à un moment, il fait 2-3 passes de karaté.
Moi, j'attendais ça, moi, tu vois, du film, quoi. C'est-à-dire, il y en a même dans Parole de flic, hein, parce que Parole de flic. On en a bien parlé, on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'on n'avait pas dit qu'il y avait une scène de karaté.
Il y a tant de choses à dire sur Parole de flic.
On devrait refaire un, tu vois. Volume 2, Parole de flic, volume 2.
Bonus. Non,
mais en vrai, si tu veux, le truc, c'est que donc, t'avais une scène de karaté donc, dans Parole de flic, écrit par Philippe Sedbon, et là, t'as encore une scène de karaté, je l'attendais, forcément, c'est un auteur, le mec. Mais mais oui, alors il y a ça, déjà, et puis après, il y a quand même, il a quand même une espèce d'allure de vieux beau, complètement...
Roland Giraud.
Ah oui.
Ouais.
Ah non, pas Michel Sardou, non.
Michel Sardou, on va en parler, mais disons que Roland Giraud, c'est quand même un vrai acteur, tu vois.
Oui.
Donc, avec ce qu'on lui a proposé, il tente d'en faire quelque chose, quoi, tu vois. Je pense qu'à mon avis, c'est un peu entretenu physiquement, parce qu'il est quand même en bonne forme, quoi, tu vois.
Il est bien peigné.
Voilà. Et il a le paquet de Gomina sur la tête, là, tu vois, quoi. Mais le problème, moi, c'est qu'après, c'est vrai que dès qu'il parle, c'est la voix de Roland Giraud. Donc, quand t'as ses prestations dans les. Je parlais tout à l'heure de Papy fait la résistance, trucs comme ça, t'as un peu du mal à croire que c'est un tueur.
Pour moi, Roland Giraud, c'est le gros beauf dans le sketch des secrets professionnels du docteur Afelgluck, où il fait chier Alain Chabat, là, comme c'est pas permis.
C'était très marrant, ça.
Et lui, il est très très bon parce qu'il fait vraiment le beaufarasse total, mais hyper, hyper cultivé, quoi. Dans un show télé, quoi.
Mais dans ce genre de rôle, il est super.
Mais le problème, justement, c'est que moi, je vois quand même ça quand je vois le personnage de Cross, parce que je me dis, mais en fait, il a 2 doigts de la beaufrie, le mec. Alors qu'en fait, il est censé être all suave and shit, quoi. Tu vois, c'est le tueur mystérieux, insaisissable, etc., etc., qui quand même, se fait avoir par Sardouille et comment dire
parce que tu dis Sardouille toi.
Moi je dis Sardouille parce que
en hommage au Groland.
Bah voilà, tu vois, pour moi c'est resté quoi.
La rupture tranquillou.
Voilà, c'est ça et en fait Sardouille il vient le chercher et le mec accepte. C'est ce qui est déjà
improbable.
La scène qu'on vient de voir. Mais de toute façon, enfin, leur relation, elle est improbable en fait, parce que tu comprends pas trop pourquoi. Tu vois.
Oui, mais c'est un peu comme la relation qui lie Cross à Simon, son ancien rival là, qui l'a fait coffrer et puis qui a capturé qui a kidnappé sa famille. C'est aussi une relation, enfin, elle n'est pas construite et il y a des moments, tu es surpris d'apprendre qu'ils ont une sorte d'estime fraternelle envers l'autre, de noblesse dans l'adversité, quoi, tu vois. Et tu te dis, mais d'où, quoi, ça n'a jamais été posé, tu vois. Et la relation avec Roland Giraud est assez identique, quoi. En fait, tu as l'impression qu'il y a des éléments hors champ, quoi, des trucs, des pages.
Mais
du
c'est surtout que ça n'a pas été posé, mais tous les moments où, en fait, où il marche sur une peau de banane, le personnage de Sardouille, là, oui, par contre, ça s'est posé.
Voilà, ouais.
Parce qu'en fait, c'est ça le truc aussi, c'est-à-dire qu'en fait, la problématique, c'est qu'on est en train de suivre un personnage principal qui est bon, on va dire au mieux dépressif, au pire complètement con, parce que en gros la première scène, donc où il apprend en gros que Simon a kidnappé, enfin en fait tient en otage sa famille, sa belle famille et sa famille, tu vois, il va les voir, il se fait pécho tout de suite. Et là il regarde par la fenêtre et les mecs ils l'attrapent avec un fusil, quoi.
Ah mais moi j'ai rarement vu au cinéma un personnage qui accumule systématiquement.
C'est du Drebin.
Ah ouais, moi je te disais Nordberg même pendant le film dans Frank Drebin, mais c'est le mec qui accumule toutes les gaffes possibles, et avec toujours un air d'enfant battu, quoi. C'est terrible. Il y a, enfin, la scène, on parlait tout à l'heure, la scène d'infiltration de cet hôtel abandonné.
Ouais, la scène de 45 minutes d'infiltration.
Ah oui, oui. Bah alors, c'est-à-dire, il y a un montage parallèle entre la famille de Cross qui a été kidnappée avec les méchants, tu vois, leur relation, qui sont séquestrés là dans cet hôtel. Et puis, avec Roland Giraud et Michel Sardou qui infiltrent l'endroit, mais alors qui infiltrent. Enfin, c'est pas Solid Snake, hein, tu vois, quoi, c'est avec la discrétion d'un pachyderme. C'est-à-dire, les mecs, ils se baladent dans les couloirs et en fait.
Ils se gueulent dessus.
Ouais, ils se gueulent dessus, ils se disputent comme des gamins de 4 ans dans une cour de récré. T'as un moment, c'est-à-dire.
En fait, il y a une escalade, c'est-à-dire que voilà, à chaque moment où il revient, en fait, sur le moment où ils sont. C'est-à-dire, d'un côté, t'as ce qui se passe avec les fous. Et ça, il faut qu'on en parle aussi, parce que quand on a revu le film, tu m'as fait une réflexion assez intéressante là-dessus, quoi. Mais en fait, il y a ce qui se passe avec les fous et la famille, et ce qui se passe, en fait, donc avec les deux qui sont en train d'infiltrer, et à chaque fois, en fait, ça cut et ça revient sur eux. Et à chaque fois, c'est l'escalade, parce qu'il faut encore plus. Enfin, Sardou fait encore plus une grosse connerie. Alors, que d'habitude, quoi.
Ouais, et puis c'est surtout dans ce montage parallèle, rien n'avance, et on nous enfile les poncifs. Comme des perles, alors on a droit à un moment, il sursaute parce qu'il y a un rat. La séquence d'après, c'est il sursaute parce qu'il y a un chat. Et la séquence d'après, c'est Sardou qui se casse la gueule. Alors, c'est sans doute la meilleure scène du film.
C'est-à-dire, il tombe dans un trou, quoi.
Il tombe dans un trou, il y a le plancher qui s'ouvre, il tombe dans un trou, Roland Giraud le rattrape, tu vois.
Et là, il l'engueule, il fait t'as pas vu qu'il y avait un trou, je l'ai vu depuis tout à l'heure et tout. Alors, toi, il y a un trou, tu tombes pas dedans, c'est ça. Et ça part en couille. Et on a minimisé. Je crois que la scène, elle dure 2 minutes, ouais, de dialogue.
Elle est alors éclairée à la Russell Mulcahy encore, avec des filtres.
À la Russell Mulcahy.
Ouais, avec de la lumière filtrante là, à travers les planches cassées et tout, quoi. Et donc, une scène de polar néo-noir, tu vois, comme avec deux mecs qui racontent des conneries. Et puis surtout, où en fait. Roland Giraud, il l'humilie, quoi. Michel Sardou, c'est-à-dire, il dit, mais t'es con, mais tu fais toutes les conneries possibles, tu les fais, quoi.
Et l'autre, il fait, ouais, c'est vrai, c'est limite, il est là en train de prendre
mais il y a même un moment où
le taquet, quoi.
L'autre, il est en train de le pilonner, comme ça, quoi, de lui dire toutes ces 4 vérités, et t'as Sardou qui reste là. Le regard dans le vide, la gueule ouverte, totalement hébété, comme ça, qui dit rien. Et t'as même à la fin, t'as ce Giraud, il lui dit putain, mais regarde ta gueule, t'as une gueule. De...
Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule et tout. Non, mais c'est vrai que c'est la scène.
Ah, c'est la grande scène du film.
Mais c'est surtout, tu sens qu'en fait, il y avait 4 pages de scénar dans cette scène-là, à ce moment-là, le truc. Et en fait, tout ça pour pas avancer, hein, tu vois, parce que ça change absolument rien. Et surtout. C'est-à-dire qu'il y a quand même encore une fois un espèce de respect mutuel à la fin, malgré cette scène qui s'est passée 10 minutes avant dans le scénar, quoi, tu vois. Donc
Roland Giraud lui dit ferme ta gueule et tout.
T'es vraiment un blaireau, tu sais pas faire ton métier, ça c'est du. Et puis en fait, il arrête pas de.
Toi tu l'avais vu le trou, hein.
C'est ça, toi tu l'avais vu, hein, tu marches pas dedans, toi. Il fait bah non.
Monsieur, je sais plus quoi. Comment il s'appelle, Roland Giraud? Ouais, Eli Cantor, il s'appelle. Ah oui, monsieur Cantor, il avait vu le trou.
Ah non, c'est...
Ouais. Et donc, effectivement, alors après, on retourne à sa famille, et puis après, on revient vers eux, si on n'a toujours pas avancé, ils continuent. Quoi.
Alors, il y a ça, Simon, il est interprété par Patrick Beauchaud, qui est un acteur quand même qui a une carrière internationale assez dingue, hein, on regardait ça tout à l'heure, tu vois. mais il est quand même accompagné.
Oui, parce qu'on peut le dire rapidement, hein, il a joué en tout cas par à l'époque, avant Cross, il a fait quelques films érotiques comme les films de David Hamilton, Emmanuel Cadde, des trucs comme ça. Mais après, il a fait quand même une carrière.
Oui, bon, c'est-à-dire ça t'a marqué, quoi.
Non, mais ces films-là, de toute façon, avaient une petite carrière internationale.
Oui, oui.
Les films de David Hamilton ou les Emmanuel. Et il s'est fait connaître. Et après, on l'a vu au cours des années 90-2000 dans des séries comme Carnival, ouais. Des films comme Panic Room. Bon, je ne sais plus. Il a quand même pas
Dangereusement
mal...
Vôtre. Enfin, voilà, il a une très grosse carrière. Il est dans des Roland Emmerich, dans des trucs comme ça.
Voilà, dans 2012, de Roland Emmerich, effectivement. Non, non, ça reste l'acteur qui a sans doute la filmo la plus prestigieuse. Et alors, on n'a pas l'impression en le voyant, parce qu'il y a une voix de canard.
Ouais, après, c'est plutôt un bon acteur. Là, il n'a pas grand-chose à défendre. Mais dans Carnival, il était très bien, par exemple. Mmh. Le truc, c'est que, de toute façon, à côté des autres, c'est carrément hallucinant, parce qu'il y a ce truc, en fait, où il est suivi par 3-4 fous, dont...
Oui, on pense un peu à ce film de Jack Shoulder, là, Alone in the Dark, tu vois, quoi, avec des fous comme ça, échappés d'un asile.
Ah, oui, alors on pense surtout au Marlou dans Death Wish, quoi, 2
oui, alors, oui,
et 3.
Dans leur comportement, mais même dans le premier, hein, ils ont ce comportement-là, quoi, de...
Ouais, ouais. On va les violer,
c'est des tarés, quoi. T'sais. Et en fait, le truc, c'est que tu te dis, bon, ces personnages-là, en général, ils apparaissent, ils font leur saloperie et ils sont déblayés avec une balle dans le cul par Bronson, tu vois. Mmh. Non, là, il y a un mec qui reste pendant tout le film. Et là, en fait, on s'était fait la réflexion.
Il
ouais,
y en a
qui
meurent quand même en milieu de film, je crois. Hein.
Ouais, bon, ça prend du temps. Hein. Mmh. Et en fait, tu avais fait cette réflexion, tu sais, mais en fait, on fait pas des films entiers sur des personnages comme ça. C'est pour ça qu'ils déblaient dans les Death Wish, quoi. Ils restent pas parce qu'ils sont trop débiles, quoi. Et là, en fait, le film, il tient avec eux. Toute la distance, quoi. Tu vois.
Donc, ouais, ça nous donne. Ça donne lieu parfois à quelques trucs un peu bizarres, quoi, tu vois, quoi. C'est-à-dire il y a une scène où il y a
alors ça c'était ta demande de déviance, parce que le film est pas très déviant, ça aussi faut le dire, ça, pour un polar français, si ce n'est au début t'as un mec qui se fait déblayer à coups de fusil à pompe, donc forcément toi t'étais content. Toi, je t'ai vu faire ah bah voilà, tu vois, il déblaye comme une
oui,
merde.
Oui, c'est-à-dire dans une réunion de famille bourgeoise, tu vois, où le mec il se lève, bah alors, il y a avec son costard cravate, ses lunettes et tout, et puis l'autre il arrive, il lui fout un coup de shotgun.
Ouais, voilà, c'est ouais. Ça. Et en fait, tu te dis putain, c'est pas assez déviant. Et là, paf, t'as une scène avec un des personnages dont t'apprends qu'il est pédophile, donc. Mm. Et en fait, il se met à parler avec la gamine de Cross. Mm. Et en fait, ça devient une scène complètement dégueulasse.
Ah
quoi.
Ouais, il lui dit,
tu sais, moi je me suis marié avec une petite fille de 10 ans. Et alors, la gamine a dit, vous étiez amoureux.
Ouais, non, et ça tombe comme un cheveu sur la soupe, en fait, dans le film, quoi. Et pour montrer surtout... qu'ils sont quand même un peu dangereux, et voilà, quoi. Mais, et puis ça repart, en fait, comme c'est arrivé, quoi. C'est-à-dire,
ouais,
et
puis c'est surtout que ce personnage. Il dit qu'il y a un moment il veut violer une nana, je sais pas, il commence à caresser un de ses acolytes, quoi. Tu te dis, mais quelle est sa sexualité? Le mec est tout azimut.
Oui, bon, bah c'est vrai, ça. Il fait ce qu'il veut, hein.
Voilà, je...
Enfin, il fait ce qu'il veut. Il fait... avec des adultes, ouais, on va dire. Mais.
C'est Maxime Leroux, je crois, qui joue ce personnage-là.
Non,
c'est Gérard Zalberg.
Maxime Leroux, c'était un second couteau
du cinéma français de cette époque-là.
Moi, je me rappelle de lui dans Lévi et Goliath.
Ouais, effectivement. Ouais, et puis on le voyait énormément.
De Gérard Horry.
Et puis t'as une gueule aussi, c'est Gérard Zalberg là, donc qui fait partie des tueurs qu'on avait vu dans les Prédateurs de la nuit, notamment cette scène où il rentre une perceuse électrique là dans la tête d'un mec. C'est un type qui a fait comme ça quelques films. Il a pas une filmo à rallonge, et puis qui a disparu de la circulation. On sait même pas s'il est mort depuis 1997, mais qui a vraiment une tête étonnante. Il avait joué aussi le Mr. Hyde de Valerian Borovics là, dans une version de Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec Udo Kier. Enfin voilà, c'était un mec qui était spécialisé dans des rôles de taré, quoi,
il a une gueule de taré, hein.
Ouais, il a une gueule de taré avec les sourcils épilés, tout ça, mais bon, il en fait pas grand chose. Il est un peu interchangeable avec les autres, hein, de toute façon, il en fait pas grand chose dans le film. C'est vrai que ouais, ça génère quelques rires quand même, parce que ces personnages sont assez ridicules, quoi.
Tu sais, dans Police Academy 3, tu vois qui c'est, Bobcat Goldthwait,
qui parle que ça.
Et en fait, sauf que dans Police Academy, c'est une comédie, tu vois. Et là, c'est la même chose, mais sauf que c'est un polar.
Ouais.
Solennel. Sérieux.
Ouais, mais je pense que c'était la volonté de Sedbon, hein, d'essayer de faire quelque chose d'un vrai polar, tu vois, quoi, et tout. Mais bon.
Oui, bah, bien sûr, mais ça, d'accord, tu vois.
Après, c'est vrai qu'avec un héros totalement neurasthénique, là, qui subit pendant une heure et demie tout ce qui se passe, quoi, tu vois, quoi, sauf sur sur le final où d'un coup d'un seul, alors là il sort le shotgun, il bute un mec et puis il nous fait une sorte de duel de western final là, qui tombe totalement comme un cheveu sur la soupe. Hein.
Oui, mais ça c'est pareil en fait, c'est cette espèce de scène, il le dit, est-ce qu'on spoil jusqu'au bout en même temps, ça, j'ai envie de dire c'est cross quoi, tu vois, c'est-à-dire que je suis même pas sûr encore une fois que les gens
je pense pas que les gens vont le voir pour le suspense que ça.
Puis je suis pas sûr qu'ils vont courir aller voir le film en fait, vu qu'il est quand même difficilement visible dans des bonnes conditions. Mais c'est vrai qu'en fait, en plus, il bute même pas le mec en fait à la fin. C'est-à-dire que il lui laisse le soin de le faire lui-même quoi.
Ouais, donc, voilà, mais ça aussi c'est un poncif. Où, en fait, il lui laisse un flingue et puis il s'en va comme ça et puis il met ses lunettes de soleil fumées là et puis ouais. Et puis quand il entend le coup de flingue dans la maison, là il s'arrête et, juste avant de repartir. Oh, c'est un truc qu'on a vu, je sais pas, 15 fois.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais donc, et alors il y a aussi donc ce combat de karaté. Avec Roland Giraud qui est bon, on va en faire des caisses non plus parce qu'il dure à peu près 1:30. Hein.
Ouais, mais il fait un petit high kick là, il tente un petit high kick.
Quoi, et donc en fait, c'est aussi le moment où un peu tout se précipite dans le montage parce qu'il manque des scènes, on va dire. C'est qu'apparemment, donc il était blessé, mais il arrive quand même à faire des kicks pour finalement en fait mourir de ses. Parce que je spoil évidemment, tu vois, mourir de ses propres blessures, tu vois, 5 secondes après. Donc le montage était très. On l'a remis en fait pour voir quand même un peu ce qui se passait. On s'est dit, attends, on a raté quelque chose.
Bizarre, parce qu'il se prend un coup de flingue là, dans le bide 30 secondes avant, une minute avant. Là. Et puis là, d'un coup, il se met à se battre. Là, comme
tu vois, on aurait vu ce film à l'époque au cinéma, ça aurait été Tenet, on n'aurait rien compris. On aurait fait putain, mais qu'est-ce qui se passe et tout, ça revient en arrière. Donc ouais, mais c'est juste des problèmes de montage.
C'est vrai que donc on peut signaler aussi peut-être le directeur de la photo Jacques Stein qui est un chef op d'origine hollandaise et qui a eu une carrière assez étonnante aussi donc qui à cette époque-là faisait donc ce film-là mais qui a travaillé aussi sur l'ami américain de Wim Wenders qui a fait la photo de Kill Me Again de John Dahl. On avait parlé récemment de deux films de John Dahl dans Stéroïdes.
Red Request et Last Seduction. Ouais.
Voilà, bon, pas Kill Me Again.
Kill Me Again, c'était son premier film vraiment, comment dire, dans cette veine-là.
Et qu'il
a révélé, en tout cas.
Ouais, et c'était Jacques Stein, le chef-op. Alors, je pense qu'il n'est pas allé le chercher pour rien, Philippe Sedbon, qu'il avait envie d'avoir un petit peu ce genre d'éclairage expressionniste, là, d'essayer de...
Faut bien trouver un peu d'expression avec la gueule de Sardou. Hein,
c'est bien, c'est clair que c'est bien de le mettre un peu dans la pénombre de temps en temps. Là, tu vois qu'on va pas trop, parce que c'est hallucinant. Après, je pense que connaissant par exemple l'amour de Philippe Sedbon pour Charles Bronson, je pense qu'il voulait lui conférer une attitude comme ça, une identité un peu de personnage mutique, quoi. Tu vois, quoi. Mais le problème, c'est qu'enfin, c'est plus un. Sardou, il n'a pas la gueule de Bronson. Hein. Quand il tire la gueule, il a un peu une tête de petit garçon.
Ce qui m'a vraiment déçu, c'est que j'espérais qu'il allait au moins avoir, parce que c'est quand même son grand essai en tant que star de cinéma, dans le polar et tout ça, etc. J'espérais qu'il allait avoir au moins. J'espérais que sa mère allait être interprétée par Jacky Sardou. Tu vois. ça aurait été bien. Tu vois. Genre, il va voir sa mère. D'abord, avant d'aller voir Roland Giraud, il va voir sa mère pour lui demander de l'aide.
Non, mais Cross n'a pas de parents. Stéphane Cross est un être solitaire qui vient de nulle part et qui s'en va nulle part. Quoi, tu vois, quoi, Alors, revenons sur son nom.
Son nom, c'est comme Rosebud, qu'est-ce que c'est, tu vois. On se pose la question, c'est quand même le truc, on s'est posé la question pendant tout le film, qu'est-ce que c'est Cross, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois.
Donc, un jour, peut-être que David Fincher fera un film sur le tournage de Cross.
N'importe quoi. Donc on s'est dit, c'est quoi Krosinski, Krostouille, Krustibat, tu sais que c'était quoi son nom, quoi, tu vois. on cherchait, tu vois, on s'est dit, il veut pas que les gens l'appellent par son vrai nom. Et en fait, c'est assez bateau, quoi, c'est Krosky.
Krosky, ouais, ça fait un peu croquette pour chien, mais
voilà, c'est ça. Et en fait, en plus, on l'apprend parce que c'est Simon qui dit à Marianne Chazelle, Madame Krosky, tu sais, il l'appelle Madame Krosky. Enfin, au bout de 45 minutes de film, on était alors c'est ça, c'est tout là, tu vois, il y avait pas de comment t'appelles ça.
Et il insiste pour qu'on l'appelle comme ça, hein, Sardou. Hein. C'est-à-dire quand on lui dit Krosky, il dit non, Cross.
il faut qu'il soit un petit peu badass,
c'est ridicule. Mais ça c'est ce que je disais au début, c'est un poncif en fait de polar américain, de trucs à la Ed McBain, toi, ou de machin comme ça, avec le personnage de polonais qui s'appelle Bronski, tu vois, et on l'appelle Bronx, tu vois. Enfin, Marshall, il a repris ça.
Bien sûr, mais après le truc c'est que t'as comment ça s'appelle. On va dire, c'est un cliché ou un archétype en fait du polar américain, du film noir et tout. Mais en fait, à cette époque-là, c'était quand même pas mal repris dans les trucs genre Cobra, Cobretti, tu vois. C'était toujours des noms. C'est t'as un mec qui s'appelle Cobretti, donc on l'appelle Cobra. Mais tu vois, bon, c'est, enfin, qui s'appelle Cobretti dans la vraie vie, en fait, j'ai envie de dire, tu vois.
On pense un peu à Cobra, hein, en certains instants. Il y a un moment, une scène.
Ça, c'est moins bien, quand même. Hein.
Non, mais une scène de parking avec de la musique qui prend des détours un peu industriels, là, tu vois, quoi, avec des clong, clong, des objets en métal qui se frappent, là, où ça fait penser un peu au final de Cobra et tout. Bon, après, c'est peut-être une source d'inspiration, hein, on ne sait pas.
Ça c'était fait à peu près sensiblement à la même époque. Hein.
Bah, 87, quoi.
87 et Cobra en 86, donc c'est pas impossible. Après, il y a une scène dont on n'a pas parlé, qui est la scène d'ouverture.
Mais moi, il y a un autre truc aussi dont on n'a pas parlé, sur lequel je vais te lancer, Stéphane, mais vas-y.
Attends, dans la scène d'ouverture, il te présente quand même Cross comme un casse-cou, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il va gérer une situation de crise, une prise d'otage. Mmh. Enfin, une prise d'otage vite fait, hein, un kidnapping, un rapt ou je sais pas quoi.
Avec son pote flic, là.
Voilà,
son sidekick.
Qui est une espèce de douille, là.
Ce qui est étonnant, d'ailleurs, parce que juste petite parenthèse, ce mec-là, ça devrait être le type vers lequel il se tourne. Enfin, il se tourne vers lui pour aller chercher sa famille.
Mais apparemment, il était en train de baiser, donc il voulait pas venir.
Le mec est en train de baiser, il n'a rien à battre, je te dois rien. Grosse foule camp, t'es qu'une merde et tout. Et non, alors c'est ça qui fait que.
Mais c'est pour ça qu'à mon avis, si c'est
vers Roland Giraud.
Ouais, mais c'est comme ça que le scénar le justifie, je pense.
Ouais.
Après, bon, maladroitement, on va dire. Pour
donc
rester
tu disais,
Et en fait, donc cette scène, il le présente comme un mec un peu badass, tu sais, qui sort des règles et tout ça, etc., etc. Mais en fait, comme le personnage n'est jamais démontré de cette manière-là, puisqu'il se fait engueuler par tout le monde, il se fait traiter comme de la merde. Il se fait même traiter par sa belle-mère. Là. Sa belle-mère, il fait mais vous allez pas y aller, Cross. Qu'est-ce que vous allez faire? Il fait bah, vous avez dit que j'étais bon qu'à tirer dans le tas, alors je vais le faire, tu vois, mais qui se justifie, quoi.
Et voilà, il dit ça et s'ensuit à peu près 40 minutes où il ne tire jamais.
Oui, c'est ça, tu vois.
Des conneries.
Voilà. Ce que j'aime bien, en fait, avec ce film aussi, c'est que ça me renvoie un peu à une époque, à l'époque du cinéma français, où tu sentais que la moitié des acteurs, ils étaient quand même dans des pubs Lustu Cru, dans des trucs comme ça, tu vois. Genre, je pense à La Belle-Mère, tu vois. C'est, tu sens que c'était des trucs où tu les voyais dans les pubs Artigas, tu sais, Airwick, VC, ou des trucs et tout.
Ouais, ouais.
Bref. Et il y a un peu, ça teinte un peu, on va dire, le grand polar solennel que c'est, quoi. Tu voulais me lancer sur quoi ?
Stéphane, nous n'avons pas parlé d'une chose.
Ah, je sais plus. C'est quoi ?
La grenade.
C'est vrai. Alors, mais parce qu'elle n'est pas dans le film.
Ouais.
Alors, si vous regardez
mensonge.
L'affiche, voilà, si vous regardez l'affiche du film, comme comment dire, l'affiche de Parole de flic, il y a une grenade sur l'affiche. Alors, une grenade qui n'est pas tenue par les deux personnages
non,
principaux,
posée en bas, qui est posée dans une main, je crois.
Voilà, c'est ça. C'est du Photoshop, quoi. Enfin, avant l'heure, puisque ça n'existait pas. Mmh. Et il ne l'utilise pas.
On ne la voit pas dans le film.
Voilà. Ouais. Donc pourquoi tu veux qu'on parle ?
Bah c'est un mensonge, c'est tout, quoi. Voilà, il faut le dire, il faut pas hésiter à dénoncer, quoi, tu vois, quoi, la publicité mensongère, surtout que pour imagine quelqu'un qui a vu Parole de flic et qui a été en extase devant cette
scène de la grenade.
La scène de grenade, là, comme tu disais, toi, voilà. Et puis qui se dit ah putain, un film de Philippe Sedmon, enfin écrit encore par Philippe Sedmon avec une grenade un et Michel Sardou.
C'est un film d'auteur, il y a forcément.
Non, mais attendez,
faut que j'y aille.
Bah ouais, je veux dire, quand on a vu les grands trucs épiques de Sardou de l'époque, là, c'est les clips de Musulmane, de ses chansons, tu vois, et tout. On s'attendait à ce qu'il dégoupille la grenade avec les dents, et puis qu'il l'envoie dans le tas, quoi, tu vois. Même pas. Mais même pas, on la voit, la grenade, quoi. Donc c'est très décevant, quand même.
C'est très décevant, mais c'est parce qu'c'est un personnage dépressif.
Ouais.
Mais moi, je crois qu'on a quand même fait le tour du film.
Oui, bah, il faut pas non plus toute une journée pour en faire le tour, hein, je pense. Voilà. Mais quand même, à recommander, comme une petite curiosité. Des années 80, du cinéma français des années 80. Et
On va encore nous reprocher de pas parler des bons films.
Mais c'est bien de parler des films comme ça aussi.
Oui, voilà. Après, le problème avec on va dire le cinéma de genre français, il y a quelques bons films français, hein, tu vois, de cinéma de genre, ça on peut pas dire le contraire, quoi. Mais bon. Il se compte beaucoup plus sur les doigts d'une main que la plupart de tous ces films un peu déviants, un peu foireux, un peu.
La qualité est souvent plus rare que la médiocrité, mon bon Stéphane, mais bon, c'est comme ça.
D'accord. Okay.
Mais après, ça n'empêche pas que oui, il y en a.
J'ai cru que tu allais dire quelque chose de profond, mais.
Ah, bah, c'est ce que j'ai dit, c'est profond quand même.
D'accord.
Non,
okay.
Non. Alain, qu'est-ce que t'en penses ? Non, c'est pas profond. Bon. Non, le truc, quand y en a, on le dit aussi. Toi, tout à l'heure, j'ai cité. On pourrait faire Stéroïdes. D'ailleurs là-dessus, même s'il n'y a pas de gros bras dedans, tu vois, mais c'est un vrai polar. Mort un dimanche de pluie, c'est un film, c'est pour le coup, c'est vraiment un film à redécouvrir que nos éditeurs pourraient nous sortir en Blu-ray. Il y en a, mais c'est vrai que ouais, c'est ces films-là aussi, des films comme Cross, même si ça a été un échec, hein, ils restent assez symptomatiques de leur époque et c'est intéressant de se replonger dedans pour reprendre conscience un petit peu de ce qu'était le cinéma français à cette époque-là. Quand même.
Donc, tu recommande Cross. C'est ça que tu viens de terminer. Tu viens de terminer en fait quand même.
Vous allez passer un bon moment, ouais, vous allez rigoler.
En même temps, ça dure 1h20.
1h20, c'est facile. Quoi. Ouais. Vous pouvez le mater en plusieurs fois, à la limite.
Sur YouTube, donc. Merci Arnaud.
Merci Stéphane.
Merci à tous nos auditeurs. Vous pouvez nous suivre sur capturemac.net, c'est notre adresse, c'est l'adresse du site. Vous pouvez nous suivre sur les agrégateurs de podcasts habituels. Je n'ai plus l'habitude moi, de faire des sorties de podcasts avec ça. Quoi. J'aime bien laisser Clémence les faire, ça me dédouane. Et elle le fait très très bien. Quoi. Et puis moi je vous dis à la prochaine. En fait, vous pouvez tiper, tiens, parce qu'Alain il me regarde avec ses gros yeux là. Vous pouvez tiper sur tipeee.com, hein, le mot-clé Capture Mag. Et puis nous on vous dit à la prochaine. Alors Arnaud, peut-être pas avec un autre power français, on va s'arrêter là hein, pour le moment. Oh, quoi que,
je sais pas si jamais on trouve un truc totalement psychotronique là, peut-être.
Hein. Oh, il y en a plein. On en trouvera un.
Faut voir.
Allez, à la prochaine.
Ciao.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.